Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Lutte contre la variole de Saint-Jean, RDC. Près de 100 000 doses de vaccins réceptionnées hier par le ministre de la Santé de la part de la Commission européenne. Il s'agit d'un premier lot. Il concerne uniquement les adultes pour le moment, explique le représentant de l'UNICEF en RDC. Le ministre de la Justice interdit le transfèrement de toutes les personnes arrêtées et détenues par les parquets vers les prisons. Ceci intervient après la tentative d'évasion des détenus de la prison de Makala. Mais quelles conséquences d'une telle décision sur l'action du ministère public? Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, la MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés, ce dans quelques villes de la RDC. C'est entre autres des véhicules, des appareils électroménagers et équipements de communication. Pour en parler, nous recevons Joseph Moswala, procurement officer à la mission onusienne. Heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, bonjour. La RDC reçoit le premier lot des doses de vaccins contre le monkeypox. La Commission européenne livre donc près de 100 000 doses pour permettre au pays de lutter efficacement contre cette épidémie. C'est le ministre de la Santé qui a réceptionné hier à l'aéroport de Njili ce premier lot de vaccins dénommé MVABN en présence des représentants de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires. Témoin de l'événement, Askin Zibiatayoro.
C'est par les vols d'Ethiopia Airlines que ce premier lot de vaccins a été acheminé en RDC en provenance de Bruxelles. Près de 100 000 doses de ces vaccins vont être gardées dans l'entrepôt du PEV à Kikole en attendant l'approbation du plan de vaccination. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, vante ici la qualité de ce vaccin.
C'est le vaccin de Mpox, vous savez, ce vaccin cher, très utile, qui a permis d'arrêter la première circulation d'Mpox, notamment au niveau de l'Europe et des États-Unis, et donc pour lequel on se battait pour avoir des doses.
Par ailleurs, ce lot de vaccins qui est arrivé ne semble pas encore approuvé pour les enfants. Précision avec Grant Eleiti, représentant de l'UNICEF en RDC.
Ce lot de vaccins, en ce moment, est approuvé pour des adultes. Donc nous sommes en train de patienter l'arrivée des autres vaccins qui sont spécifiquement pour les enfants de tout âge. Mais en plus de ça, le fabricant de ces vaccins, ils sont en train de demander l'approbation pour l'utilisation de ces vaccins pour les enfants entre 12 et 17 ans.
Selon la planification, 100 000 autres doses de vaccins viendront ce samedi, ce qui fera un total de 200 000 doses qui devront être réparties dans les provinces prioritairement touchées par l'épidémie de la Mpox.
Entre-temps, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, un cas de monkeypox est confirmé depuis samedi dernier dans la zone de santé de Mutuanga. C'est dans l'aire de santé de Kasindi-Lubiria, à la frontière avec l'Ouganda, environ 80 km de la ville de Beni. L'annonce a été faite hier par le médecin chef de zone de santé de Mutuanga, le docteur Germain Kamaliro. Par ailleurs, notez que les 100 000 doses de vaccins arrivées hier à Kinshasa sont approuvées pour vacciner uniquement les adultes. C'est la précision de taille qu'a bien voulu donner Laurent Michel, l'autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire ERA de la Commission européenne. D'après cette personnalité, il faudra effectuer des essais cliniques probants sur ce vaccin en collaboration avec Africa CDC avant de pouvoir vacciner les enfants de 12 à 17 ans. Explication de Laurent Michel, recueillie par Askin Zibiatayoro.
Le vaccin a été autorisé pour les adultes, mais l'Agence européenne des médicaments est en train d'examiner de nouvelles données additionnelles pour pouvoir l'utiliser pour les enfants de 12 à 17 ans. Et donc on devrait avoir cette autorisation d'ici à la fin du mois. Et il y a des essais cliniques qui sont en cours pour les enfants de moins de 12 ans pour pouvoir voir comment vacciner ces enfants, quel sera le dosage optimal. Donc c'est en cours de travail. Mais pour l'instant, le vaccin est uniquement autorisé pour les adultes. Nous allons continuer à travailler notamment sur le dépistage. Et nous avons un projet, là je peux donner le chiffre, à hauteur de 10 millions d'euros avec Africa CDC pour améliorer les diagnostics, améliorer la surveillance pour pouvoir vacciner et pour pouvoir traiter les patients dès le départ.
Vous le savez, après la tentative d'évasion des détenus de la prison de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, le ministre de la Justice interdit le transfèrement de toutes les personnes arrêtées et détenues par les parquets vers les prisons, notamment la prison centrale de Makala à Kinshasa. Raison avancée, lutter contre la surpopulation carcérale dont sont accusés les magistrats. Mais quelles conséquences revêt une telle décision sur l'action du ministère public? Que deviennent les détenus préventifs se trouvant dans les cachots et amigos en passe d'être transféré à la prison? Radio Kapi a fait la ronde des parquets de Kinshasa et échangé avec les maîtres de l'action publique sur cette problématique. Voici la tentative de réponse avec Jeff Ngoy.
Plusieurs dizaines de détenus préventifs se trouvent en arrestation provisoire dans les cachots. Dans les deux ressorts judiciaires, à savoir la cour d'appel de la Gombe et celle de Matete, les parquets transfèrent à Makala les détenus préventifs chaque samedi à l'arrivée de la fourgonnette de la prison. Conformément à l'article 27 du Code de procédure pénale sur la détention préventive et la liberté provisoire, lorsqu'une personne est arrêtée, elle est placée sous mandat d'arrêt provisoire dans une maison d'arrêt. Où devons-nous les garder chez nous à domicile? Sommes-nous devenus gestionnaires des prisons pour nous imputer ce qui y arrive, s'interrogent les magistrats rencontrés. Or, la loi prévoit une maison d'arrêt que le gouvernement devait construire. Il est vrai que partant de la Constitution, la liberté est le principe et la détention est l'exception. Cependant, le code de procédure pénale confère au magistrat instructeur d'apprécier, au regard des faits, porter à sa connaissance la gravité des faits. Dans le cas contraire, on va assister à la justice populaire dans nos cités du fait d'une criminalité urbaine non réprimée. Tous nos efforts pour faire parler le ministre de la Justice sur cette problématique et tant d'autres se sont avérés vains.
Pendant ce temps, le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle prône la collaboration interinstitutionnelle pour une bonne marche de la justice que tout le monde souhaite. Il l'a fait savoir hier au sortir de l'audience accordée aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature par la première ministre. En effet, Judith Suminwa recevait les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire exercice 2025 à intégrer dans la prochaine loi des finances ainsi que le procès verbal sanctionnant la réunion du CSM mercredi. Dieudonné Kamouleta n'a pas révélé le contenu ni le montant global de ses prévisions, préférant encore attendre sa finalisation par un vote pour en parler. Ce dépôt de budget du pouvoir judiciaire intervient quelques jours après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala et la querelle verbale qui s'en est suivie avec le ministère de la Justice. Selon le président du Conseil, les magistrats ne sont pas en confrontation avec le pouvoir exécutif. Dieudonné Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature, explique au micro de Jeff Ngoy.
Le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Dans un premier temps, nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire à la première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste les PV de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Nous nous voyons en aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État.
Autre nouvelle, rassurer les opérateurs économiques locaux et travailler sur la production locale en mettant un accent particulier sur des produits stratégiques tels le manioc, le maïs, le riz et l'huile de palme. C'est l'objectif de la réunion animée hier à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, face à une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Daniel Mukoko Samba a rassuré aux producteurs locaux qu'ils portent à cœur leur situation et a mis en place au sein de son cabinet une équipe qui travaille sur le redressement productif par la mise en valeur des espaces productifs nationaux. Écoutez à ce propos l'administrateur délégué de la FEC, Kimona Bonongue. Il résume ici leurs échanges avec le patron de l'économie nationale, propos recueillis par Blaise Makassinandes.
À la demande du chef d'État, le gouvernement a pris la décision de faire baisser les prix des biens de première nécessité sur le marché. Mais cela ne se passe pas si facilement. Il y a certains paramètres qu'il faut maîtriser. Il a fallu que nous puissions lui présenter les difficultés auxquelles font face les importateurs de biens de première nécessité, mais également les producteurs locaux, parce qu'il ne faut pas que ce pays se contente, reste dans l'importation des biens de première nécessité. Il faut également qu'on redevienne ce que nous avons été avant l'indépendance et même juste après l'indépendance, producteurs nous-mêmes, pays du Congo. Mais cela implique évidemment la participation de tout le monde, parce qu'on demande aux importateurs de bien de première nécessité de baisser les prix. Le vice-premier ministre a été clair là-dessus. Il va essayer de travailler avec, de concert avec le gouvernement, avec la première ministre.
Notez que la directrice générale des plantations et huileries du Congo, Monique Gieskes, plaide pour un équilibre entre la production locale et les importations. Elle invite le gouvernement à privilégier les problèmes rencontrés par les producteurs locaux. Dans l'actualité aussi, plus de 3000 personnes vivant avec handicap intègrent l'administration publique. Le processus de leur intégration a été finalisé lors de la réunion d'évaluation tenue hier à Kinshasa entre le vice-premier ministre de la fonction publique et la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement qui veut donner la chance à cette catégorie des Congolais de travailler au sein de l'administration du pays. Reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Devant la presse, la ministre Irène Sambo s'est réjouie de la clôture en beauté de ce processus ayant abouti à l'intégration des personnes vivant avec handicap au sein de l'administration publique. Elle a indiqué que ce long processus a connu plusieurs étapes, dont la nomination par ordonnance présidentielle du secrétaire général de son ministère. Irène Sambo a également salué que tout soit mis en marche pour permettre aux personnes vivant avec handicap de travailler dans de bonnes conditions.
Et je voudrais ici dire merci également à tous ceux qui ont concouru pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir les résultats qui vont être bientôt publiés. Une mention spéciale aux experts de la fonction publique, aux experts de mon cabinet et de toutes les autres administrations qui nous ont aidés à ce que nous puissions arriver à trouver ce qu'il fallait pour que la personne avec handicap intègre aujourd'hui la fonction publique.
Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a exprimé son engagement pour faciliter non seulement la mécanisation de ces personnes, mais également leur paye régulière dans les jours à venir. Au cours de la cérémonie d'évaluation de ces processus, deux personnes vivant avec handicap ont applaudi des deux mains cette nouvelle politique du gouvernement menée en leur faveur.
Comment contribuer à la protection des enfants dans les zones affectées par les conflits armés? Cette question était au centre des échanges hier à Bounia entre des acteurs intervenant dans la lutte contre l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés. Au cours de ces assises organisées par la section protection de l'enfant de la MONUSCO, les participants venus des 5 provinces de l'est du pays vont mettre en place des stratégies efficaces pour améliorer la situation des enfants dans les zones en conflit. Le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Ils sont une vingtaine d'acteurs évoluant dans les secteurs de la protection de l'enfant et venus des provinces de Tanganyika, Sud et Nord Kivu, ainsi que Maniema et Ituri. Ensemble, ils vont analyser pendant 2 jours la situation du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés dans chacune des 5 provinces représentées à cet atelier. Pour Murabazi Namegabe, le coordonnateur régional du réseau des organisations de la société civile contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les groupes armés, la solution durable pour mettre fin à ces phénomènes revient au gouvernement à travers l'application du programme PDD-RCS.
Parce que lorsqu'il n'y a pas de groupes armés, il n'y aura pas d'enfants associés à ces groupes armés.
La MONUSCO, partenaire clé du gouvernement dans ces secteurs de protection de l'enfant, promet d'apporter son appui aux acteurs qui interviennent dans la lutte contre l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. Le Paul Nyoké, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO à Ituri.
Nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives afin de renforcer le travail en synergie pour une protection des enfants.
Un focus sur la situation des enfants au site Kivu est aussi à l'ordre du jour 3 mois après le désengagement de la MONUSCO dans cette province. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, à quelles conditions la Constitution congolaise autorise-t-elle le droit à l'avortement? Cette question a fait l'objet des discussions à Matadi au cours de la 7e édition du Forum national des chefs des divisions et des ministres provinciaux du genre de la RDC. Selon Maître Arthur Matengo, directeur chef des affaires juridiques au ministère du genre, la loi autorise l'avortement sécurisé, notamment lorsque la grossesse est issue d'un viol ou d'un acte d'inceste. Depuis Matadi, retrouvons Karine Toperidassi pour les détails.
Intervenant lors de ce forum, Maître Arthur Matengo a rappelé que depuis 2008, la RDC a ratifié et publié dans son journal officiel le protocole de Maputo, un instrument juridique relatif à la protection des droits des femmes en Afrique. Ce protocole oblige les parties États à protéger les femmes en leur assurant un avortement médicalisé en cas d'une grossesse issue d'une agression sexuelle, d'un viol, en cas d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé physique ou mentale de la mère ou du fœtus. Selon l'esprit de ce protocole, seules les femmes qui se retrouvent dans l'un ou l'autre cas peuvent se rendre auprès d'un prestataire de santé formé et certifié afin de suivre des soins complets d'avortement de façon sécurisée pour des grossesses allant jusqu'à 3 mois. Il cite parmi les personnes habilitées pour appliquer ces soins les sages-femmes, les médecins et les infirmiers formés. En dehors de toutes ces conditions, tout prestataire de santé qui pratique l'avortement clandestin est passible de poursuites judiciaires. Matadi, Karine Topé, Radio Kapi.
Actualité internationale. 9e forum sur la coopération sino-africaine. Le président Xi Jinping fait des annonces majeures pour le continent dès son discours d'ouverture. Le président chinois promet un partenariat renforcé. Il a dévoilé les grandes lignes de ce projet de grande envergure. Je le cite, la Chine ouvrira plus largement son marché. Nous avons décidé d'accorder aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels figurent 33 pays d'Afrique, une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales, a-t-il déclaré.
L'invité.
La MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés dans quelques villes de la RDC. Il est composé des véhicules, appareils électroménagers, équipements de communication et électronique, pompes et autres conteneurs. Selon Joseph Moswala, procurement officer à la mission onusienne, la présence physique de tous les intéressés est obligatoire le jour de la souscription. Dans cet entretien avec Blaise Shindani Kambala, il revient sur les modalités de cette opération.
Joseph Moswala Makambo, bonjour.
Bonjour.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a l'intention de mettre en vente aux enchères des lots d'articles divers. Pouvez-vous nous énumérer les articles en question?
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo organise ses ventes aux enchères dans différentes villes de la RDC. Il s'agit bien de Kinshasa, Beni, Goma, Bunia et un peu d'Uvira. Et là, nous avons différents matériels. Nous avons des véhicules, nous avons des conteneurs, nous avons des citernes, nous avons des groupes électrogènes et autres matériels que la mission a eu à utiliser et à déclasser après son usage. Et donc, ce sont des matériels déjà utilisés. C'est pas du matériel neuf, mais c'est des biens usagés.
Comment cela va se passer? Comment doivent s'y prendre les enchérisseurs intéressés pour ces lots-là?
Ok, donc déjà, il est organisé une visite obligatoire. C'est-à-dire que nous donnons l'occasion aux différents enchérisseurs d'arriver sur site pour visualiser les items en question. Et quand ils vont arriver sur site, selon le calendrier qui est publié, et là, ils auront l'occasion de voir le matériel en question. Et là, sur place, il leur sera aussi donné un document qui va leur renseigner sur tout ce qu'ils ont à faire. D'abord, la liste des biens qui sont mis en vente, leur numéro parce que c'est classé par lot. Et puis là, il y a des instructions qu'ils doivent suivre pour qu'ils arrivent à bien faire leur soumission et que leur soumission soit acceptée. Donc, s'ils ne sont pas sur place, même s'ils soumissionnent par une tierce personne, leur offre ne sera pas acceptée pour la simple raison que souvent nous recevons des réclamations. Je pensais alors. Alors que si quelqu'un a vu, il est conseillé de ce qu'il veut acheter et il peut faire son offre. Et maintenant, là, sur place, il y aura aussi une session de briefing. Enfin, on va leur maintenant expliquer, bien que c'est écrit, mais parfois les gens ne lisent pas. Alors, on a jugé que cette session de briefing était importante pour permettre aux gens de comprendre, parce que c'est déjà en français, et tous nos soumissionnaires ne sont pas toujours francophones. Alors, une petite explication qui peut résumer tout le journal qui sera écrit dans le document d'appels d'offres pour leur permettre de faire leur soumission. Et là aussi, ils auront l'occasion de poser des questions s'ils n'ont pas compris tout ce qui avait été écrit. C'est comme ça que cela va se passer.
Explique-nous maintenant, Joseph Monsoila, quelles sont les conditions pour ceux des enchérisseurs qui acheteront les véhicules de la Monusco si nous savons bien que ces véhicules n'ont jamais payé la douane.
Ok, comme vous le dites, la mission de l'Organisation des Nations Unies en partenariat avec la RDC est exemptée de certaines taxes. Alors donc, du coup, ceux qui auront gagné, parce que ça sera la concurrence, et ceux qui auront gagné de l'eau, ils seront notifiés. Et dans la notification, là, ils verront les lots qu'ils auront gagnés, c'est que leur prix. Alors, ils doivent d'abord faire le paiement pour la Monusco, et ce même document qui leur seront octroyés, ils iront avec se présenter au guichet de la DGDA. Et là, ils vont remplir toutes leurs formalités douanières. Et quand ils auront payer des taxes et de la Monusco, ils vont maintenant nous ramener les preuves. Sur base de ces preuves, nous leur établirons les documents pour leur permettre de prendre possession de biens qu'ils auront achetés. Donc, quand quelqu'un aura gagné son lot et qu'il arrive à la DGDA a déjà la liste de ses biens. Maintenant, il va seulement voir que c'est tel qui a gagné. Il compare les documents qu'on a remis à l'enchérisseur gagnant et ceux qu'ils ont, et ils lui font les calculs pour qu'il paye ses formalités. La Monusco n'a aucune impulsion. Mais seulement, il a collaboré avec la DGDA pour savoir qu'il y a des histoires qui sont mises en vente et que s'il va des gens venir payer leurs taxes, qu'ils acceptent sans problème.
Alors, dites-nous pour terminer, les agents des Nations Unies en général et ceux de la Monusco en particulier sont-ils éligibles à cette vente aux enchères?
Il y a quelques années passées, cela n'était pas possible. Mais ça vient de commencer où on a autorisé que les agents puissent aussi avoir accès à ce genre de vente. Mais il y a des conditions d'éligibilité. Je crois que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu dernièrement une vente exclusivement aux agents. Et cette vente-là n'était pas réservée au grand public. On a d'abord donné seulement la chance aux agents. Mais maintenant qu'on va aussi faire un truc qui est ouvert, les agents peuvent participer, mais il y a des conditions. Par exemple, comme moi, je suis
agent. Quelles sont ces conditions? J'allais me poser la question.
Comme moi, je suis agent. Et je participe dans le processus de vente. Je ne peux pas être juge et partie. Donc moi, je ne peux pas participer officiellement. Donc, un staff, généralement nous qui sommes du service achat, mais impliqué dans la vente, je ne peux pas participer. Mais les autres collègues qui ne sont pas de ce service ou qui ne participent pas.
Moi, par exemple, les journalistes à la radio Capi,
je peux bien. Ouais. Okay. Et donc là, maintenant, vous allez participer comme
n'importe qui.
Oui, donc.
Il n'y a pas de prix préférentiel pour les agents.
Le grand public. C'est le grand public.
Joseph Monsoila Makambo, procurement officer, merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Trouvez les informations de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502, puis le 311 sur Vodacom pour ne rien rater de l'actualité du pays. Les informations de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement réservé aux abonnés Vodacom.